Bonjour à tous, bienvenue pour notre deuxième rendez-vous, deuxième cours. Alors, dans notre série d'études pour relier le judaïsme de Jérusalem et le judaïsme de New York, eh bien, nous entamons une deuxième étude. Alors, on a dit que chaque journée, on essaierait de faire une étude différente. Et donc, nous lançons aujourd'hui un autre sujet. Alors, les sujets d'actualité, évidemment, seront différents de semaine en semaine, mais nous avons également chaque semaine un autre sujet, et nous allons chaque jour, le même jour de la semaine, essayer de continuer ce sujet-là, à savoir la tefila. Voilà, nous allons parler ici de la tefila. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous dire qu'il faut prier, vous le savez. Mais justement, toute la question est là. Vous savez, comme moi, dans le judaïsme, la tefila occupe une place prépondérante, une place centrale dans l'identité d'Israël. Trois fois par jour, on doit prier. Venez, on va voir. Quand on parle de la tefila, eh bien, il y a plusieurs couchiotes, il y a plusieurs problématiques. Plusieurs problématiques, et j'aimerais les déposer devant vous avant de commencer. Aujourd'hui, nous allons lancer beaucoup de problématiques. On verra ce qu'on aura le temps de répondre dans le premier cours. Et puis sinon, ne vous inquiétez pas, on continuera. La première problématique, c'est justement cette notion de trois tefilas. Particulièrement, quand on est dans des restrictions, on ne peut même pas aller à la synagogue. On est en ce moment dans une situation terrible où on a le droit. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous aux États-Unis, mais nous, en Israël, ils viennent de nous dire aujourd'hui qu'on avait le droit d'être à 5 maximum. Un demi-minyan. Un demi-kadish. Nous, alors comment faire? Et pourtant, ça ne nous exempte pas de avoir appris que la tfila, zébim comme Orbanot. C'est à la place. Mais il va falloir se poser une question. Vous comprenez bien que quand on dit que la tfila, c'est à la place des sacrifices, ça ne peut pas vouloir dire que, une fois qu'on avait pu les sacrifices, des soupçons du temple, alors on a commencé à prier. C'est évidemment faux. Pourquoi c'est évidemment faux? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on regarde dans le Tanakh, eh bien, on voit qu'à une époque où les gens faisaient des sacrifices, eh bien, les gens priaient également. Donc, on voit bien que la tefila ne vient pas remplacer les sacrifices, puisqu'on faisait déjà la tefila au moment où on faisait les sacrifices. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tefila bimkom korbanot? Eh bien, les amis, à la place des korbanot, c'est-à-dire qu'on a donné un aspect korbanique à la tefila. C'est-à-dire, si à l'époque des korbanot, à l'époque du Beth Amikdash, eh bien, lorsque l'homme se sentait le besoin de parler à Dieu, eh bien, il parlait. Il n'y avait pas une institution qui dit, voilà, à cette heure-là, tu pries comme ça, shacharit, mincha arvit. Ça a été ça institutionnalisé après la destruction du temple. Bimkom korbanot, c'est-à-dire de la même façon qu'on faisait un lien avec Akadosh Baruch Hu, avec le korban de Shachar, eh bien on a fait la tfila de Shacharit le matin. De la même façon qu'on faisait un lien avec Akadosh Baruch Hu, ben Arbaim, on amenait le korban Mincha, eh bien on va faire la tfila de Mincha. Et de la même façon qu'il y avait des korbanot qui étaient sur le Mizbeach toute la nuit en train de brûler, et varim amukravim kol alayla, eh bien, nous avons la tfila de Arvit. C'est en cela que tfila bimkom korbanot. À aucun moment, il s'agit de dire que la tefila, elle vient remplacer, comme je l'ai dit, les korbanot. Mais alors, qui nous a dit qu'il fallait avoir trois tfilot par jour? D'où ça vient? Mes amis, je vous le donne en mille. Il y a ici, dans le Midrash Tanchuma, Midrash Tanchuma de la paracha de Kitavo, eh bien, une explication incroyable. Incroyable. Rav Tanchuma nous dit que Moshe Rabbeinu a vu Beruach HaKodesh, a vu par esprit prophétique que le Bet HaMikdash allait être détruit. Deux secondes avant de vous dire ce qu'il y a à continuer à marquer dans le Midrash. Je vous pose la question à vous. Si on vous dit, voilà, le Bet HaMikdash va être détruit, qu'est-ce qu'on va ne plus avoir? Quel est le truc pour vous qui va nous manquer énormément avec la destruction du Temple? Certains me diront, bah, on n'aura plus les korbanot, on n'aura plus le Kohen Gadol, on n'aura plus, je ne sais pas moi, on n'allumera plus la menorah. Des choses qui, pour nous, font référence au Beth Amikdash. Pourtant, le Midrash, donc Tanchuma dans la paracha de Kitavo, nous dit que lorsque Moshe a vu par esprit prophétique qu'un jour viendra où le Beth Amikdash sera détruit, c'est pas du tout ça qui lui a manqué, ni le Kohen Gadol, ni les Kohanim, ni les korbanot, ni... Il a dit... Et j'ai vu par esprit prophétique que Bikurim Atidim Leipasek, que viendra un temps où il n'y aura plus de Bikurim. Alors à ce moment-là, il a dit, bon, alors on va leur faire trois tefilot par jour. Moshe Rabbeinu, est celui qui nous a instauré trois tefilot par jour. Moshe Rabbeinu. L'âme. Parce que viendra un temps, il n'y aura plus les bikurim. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de bikurim? Qu'est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus les bikurim? Oui, comme vous pouvez le voir, ma fille est en train de mettre son pyjama. Ouais. Je pense que ça fait partie de justement cette réunion familiale dont on parlait hier. Les amis, c'est quoi les bikurim? Vous le savez, les bikurim, c'est cette mitzvah d'amener les premiers fruits de ma récolte au Beth Amikdash. Alors c'est vrai, il n'y aura plus le Beth Amikdash, donc il n'y aura plus les bikurim. Mais quoi, c'est si important que ça? Si important que ça, les bikurim? À tel point que Moshe Rabbeinu s'y a pu, il a dit, on va devoir faire trois tefillot par jour. C'est la première question. La première interrogation de notre tefila, on n'a même pas encore expliqué qu'est-ce que c'était la tefila, tout ça, mais la première interrogation c'est, voilà, dans la vie quotidienne du juif, on prie trois fois par jour, et semble-t-il que c'est Moshe qui nous a dit de faire ça pour combler le vide laissé par l'absence des bikurim. Et ça, bah, on s'y attendait pas. Il y a un deuxième problème. Vous savez, quand on parle tefila, eh bien, dans le monde ashkenaz, c'est évident, mais également dans le monde séfarade, il est une tefila qui est the tefila de l'année. The tefila. Yom HaKippurim, particulièrement la tefila de Kol Nidre. On connaît tous le juif de Kippour. Le juif de Kippour qui ne vient pas à la synagogue, il vient une fois dans l'année, à Kippour. Alors, chez les Ashkenazim, il viendra plus à Kol Nidre. Chez les Sfaradim, il sera plus là, à Neila. Mais même chez les Sfaradim, Kol Nidre, c'est Kol Nidre. C'est un truc de ouf. D'ailleurs, je me souviens, pas loin de chez vous. Une année, j'ai fait Yom HaKippurim à la Lincoln Square Synagogue, pas loin de chez vous. Et mon oncle et ma tante habitaient là-bas, et donc on a prié là-bas. Et je me souviens qu'à la fin de la tefila, le Rav a dit, comme ça, en anglais, il a dit, « Tov, Yontef, Imirte Hashem, si Dieu veut, next year, Kol Nidre will be at 6 p.m. » L'année prochaine, Kol Nidre sera à 6 heures. Je me souviens que j'avais été choqué, j'avais été demandé au rabbin, « Mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi tu donnes déjà les horaires de l'année prochaine ?» Il m'a dit, bah, c'est parce que la majorité des gens dans la synagogue, la prochaine fois qu'ils viennent, ce sera l'année prochaine. Entre-temps, on ne les verra pas. Bon, je ne sais pas si la majorité, ils exagéraient peut-être. Mais on connaît tous ce juif de Kippour. Donc, Kol Nidre, c'est une fila fondamentale, une fila extrêmement prenante. Quelle voix, quelle voix. Gershon Sirota, c'était le chazan de la grande synagogue de la Tematsky Shul de Varsovie. Je parle de la plus grande synagogue de Varsovie d'avant la guerre, qui évidemment a été détruite pendant la guerre, dynamitée par les nazis. Gershon Sirota était le cantor, le chazan de cette synagogue. Synagogue qui pouvait contenir près de 5000 personnes, un truc de malade. Comme c'était tellement un symbole, eh bien, les nazis l'ont dynamité. Ce que vous devez savoir sur cet homme qui était le chazan, il a enregistré, vous pouvez trouver ça sur Internet, le Kol Nidre de Gershon Sirota. Alors même si on n'est pas ashkénaze, une liturgie, une voix incroyable. À tel point qu'un jour, avant la guerre, il y a un homme qui est dans le train pour Varsovie. Il va y faire un concert car il est la plus grande voix de son époque. Dans le monde entier, pas juif. Il s'appelle Caruso. C'est le Pavarotti de sa génération. Et un jour, il arrive à Varsovie, il doit faire un concert à Varsovie, un opéra. Et dans le train, il est assis en face d'un homme que personne ne connaît et il joue aux échecs avec lui. La presse qui accompagnait Caruso lui demande « Mais qui est cet homme avec qui vous jouez aux échecs ?» Caruso répond « Les amis, sachez que si aujourd'hui vous connaissez Caruso, c'est parce que la personne qui est en face de moi a décidé de ne pas faire d'opéra. Parce que si lui, il avait fait de l'opéra, sa voix aurait éteint toutes les autres, tellement elle était extraordinaire. Et cet homme, c'était, vous l'avez compris, Gershon Sirota. Kol Nidre. Kol Nidre. Kol Nidre, c'est une fila extraordinaire. Et pourtant, cette fila qui est la fila de la fila, il n'existe pas une prière dans tout le Sidour qui n'ait été plus controversée que celle-là. À tel point que dira Rav Amram Gaon. Rav Amram Gaon, ça nous ramène déjà au Géonim, il y a plus de 1000 ans. Il écrit dans son Sidour, Seder Rav Amram Gaon, à propos de Kol Nidre, que nous avons une massoret de la yeshiva, que Kol Nidre, écoutez-moi bien, minag shtutu ve'asur la sotken. C'est un minag idiot et on n'a pas le droit de le faire. Pas le droit de faire Kol Nidre. La tefila des tefilotes, Kol Nidre. On dit que c'est un minhag chtou qui n'a pas le droit de le faire. Mais il n'existe pas une communauté, on ne fait pas Kol Nidre. Je vous rassure, dans le même sidour de Rav Amram Gaon, la ligne d'après où il a marqué minhag chtou de Asur la'asotken, vous savez ce qu'il a marqué ? Seder, Kol Nidre. Il y a marqué Kol Nidre. C'est-à-dire que même chez Rav Amram Gaon, on faisait Kol Nidre. Et pourtant, ils disent minhag chtou. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est minhag chtou ? Mais enfin, de quoi on parle ? D'ailleurs, moi, je serais assez pour de dire que c'est un minhag chtou. Parce que c'est quoi cette histoire de Kol Nidre ? Kol Nidre, mais maître ! Kol Nidre ! C'est-à-dire, tu viens annuler les vœux que tu as faits ? Mais ça existe, Atarat Nedarim. Annuler les vœux que j'ai pu faire si je ne suis pas capable de les réaliser. D'ailleurs, dans la tradition d'Israël, on fait Atarat Nedarim juste avant Rosh Hashanah. Et on le fait comme il faut, devant trois témoins, devant trois chachamim, et on leur dit ce qu'on a fait. Il y a tout un seder, tout un texte à dire. C'est-à-dire que ça se fait sérieusement. À Kol Nidre, tu viens et tu vas annuler les vœux comme ça, tout seul. Le chazan, il annule les vœux de tout le monde. C'est pas comme ça qu'on fait. D'autant plus qu'il y a un grand problème dans le texte de Kol Nidre. Miyom kipurim ze, ad yom kipurim abba alenu letova. Quoi ? Tu dis Kol Nidre, tu annules les vœux que tu as fait cette année, mais tu annules aussi tous les vœux que tu vas faire l'année prochaine ? Non mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu fais Kol Nidre l'année prochaine si tu as déjà annulé les vœux de... Vous avez compris le problème. Si tu dis que tu peux commencer à annuler les vœux que tu n'as même pas encore fait, la parole n'a plus aucun sens. Donc qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Kol Nidre, minhag chtout, alors que c'est la tfila des tfilot ? Trois tfilot par jour, mon cher Abeno, parce qu'on n'amène plus les fruits au Tamigdash ? Voilà, j'ai posé les deux grandes questions. On va y répondre. Je ne sais pas si aujourd'hui ou la prochaine fois, mais on va y répondre, ne vous inquiétez pas. Mais maintenant qu'on a nos deux questions, je voudrais rentrer directement dans la tefila. Ne vous inquiétez pas, on va poser d'autres questions. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le minhag à Abrabanel. Quand je suis arrivé en Israël et que j'ai commencé à étudier la Torah, eh bien on m'a dit, surtout, il ne faut pas que tu étudies Don Yitzhak, Rabbeinu Yitzhak Abrabanel. Alors évidemment, c'est ce qui m'a donné l'envie d'étudier. Si on m'a dit de ne pas l'étudier, c'est ce qu'il fallait étudier. Non, j'ai très vite compris. En fait, Abrabanel, il a un chita, il a une technique. Quand il fait son commentaire de la paracha, hein, eh bien en fait, il pose une quinzaine, une vingtaine de questions. Chaque question, c'est une page. Hein. Il pose une quinzaine, une vingtaine de questions sur la paracha. Et après, il fait une synthèse, en fait, une réponse qui répond à toutes les questions. Le problème, c'est que les questions sont tellement longues que une fois que tu as poser les questions, t'es crevé, t'as plus les nerfs de lire là. Donc c'est ça, le minhag Abrabanel, de poser plein de questions. Vous en faites pas, nous on va pas en poser 15-20, peut-être en bruit. Qu'est-ce que c'est que la tefila ? Est-ce que vous auriez une définition à me donner de la tefila ? Prier Dieu. Eh bien, il y a un homme qui nous a donné une définition très très claire de la tefila. Mais alors, maman, je claire. La définition de la tefila telle qu'elle est donnée par Rabbi Moshe Mitrani. Rabbi Moshe Mitrani, c'est et Baal Sefer Amabit, à Tzfat, il y a 450 ans, un des contemporains du Harizal, de Rabbi Yosef Karo. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle Bet Elohim. Et Rabbi Moshe Mitrani, dans ce livre Bet Elohim, Shahar Aleph, dans la porte numéro 1, la porte sur la Tfila, il nous donne une définition très simple et très claire. Il dit, à Tfila, je vous cite le Sefer Bet Elohim, il dit, Vehu bakashat adam me'ael davar tzarir she'eino birshuto. C'est la demande de l'homme à Dieu de ce qu'il n'a pas. En français, c'est quoi la tefila ? C'est demander ce qui me manque. Pashut. C'est ça la tefila. C'est pashut me'od. C'est la définition. Ce sont des demandes. D'ailleurs, je tiens ici tout de suite à mettre en place. Quand je parle ici, j'ouvre une série de cours sur la tefila. Nous allons donc comprendre l'idée qu'il y a derrière cette tefila, mais nous allons essayer également d'étudier en profondeur le texte de la Shmoneh Esrei, de la Amida, qui est la seule chose qui s'appelle véritablement tefila chez nos sages. Tout ce qu'on dit avant et tout ce qu'on dit après, c'est une préparation et un décrassage de l'après. La tefila, c'est la Amida. Et donc, dans la Amida, effectivement, la majorité des berachot, ce sont des demandes. Mais bon, ça, on verra quand on y arrivera. La tefila, c'est donc des demandes. La question, et c'est la vraie question, est-ce que moi, j'ai le droit de prier ? Il y a quelque chose qui est très problématique dans la tefila. Prier à qui ? Je m'adresse à qui dans la tefila ? Je m'adresse à Dieu. Ah bon? Mais je le connais, moi, Dieu? Je l'ai déjà rencontré, Dieu? Non. Donc, si je n'ai pas rencontré Dieu, si je ne connais pas Dieu, comment est-ce que je peux lui parler? À qui je parle exactement? Véritable problème. Et si je vous disais que d'après la halakha, pour l'Eid Palel, Assour, interdiction de prier. Bon, ne vous en faites pas, ne partez pas maintenant, parce que sinon vous allez arrêter de prier. Mais a priori, à pied à l'achat, Assour le Palel. Je veux que vous compreniez ça bien. Et donc, pour le faire, eh bien, je vais vous faire un petit schéma. Et on va faire un petit schéma, histoire de comprendre de quoi on parle. Ma fille, et va trouver un stylo dans la chambre de ma fille, et né. Akadosh Baruch Hu. Il est grand comment? Allez, on va faire simple. On va dire que Akadosh Baruch Hu, il est grand comme ça. L'infini. L'infini. Évidemment, il est infiniment grand, il n'y a pas de débat. Moi, je suis combien? Moi, je suis moi. Je suis un. Il a fait mode. Seulement, si je pose une question de mathématiques, si moi je suis un et que Dieu c'est l'infini, combien ça fait un sur l'infini? Bien, vous savez comme moi, en mathématiques, 1 sur l'infini, ça tend vers 0. En d'autres termes, les amis, je veux parler à Dieu, mais je ne connais pas, moi, Dieu. Une façon de se représenter le divin, Akadosh Baruch Hu. Mais on ne sait pas qui il est, Bémet. Et donc, si je ne sais pas qui est Dieu, parler à Dieu, mais si je ne connais pas son numéro, je risque d'appeler qui? Je risque de tomber sur un faux numéro. Si je dis que Dieu, je reprends mon schéma, c'est l'infini, eh bien, je dirais tout simplement la chose suivante. Il y a une infinité de combinaisons possibles. Si on dit que Dieu, il a un numéro de téléphone, prenons simple. Dieu, il a un portable. Son numéro de téléphone, c'est l'infini. Moi, quand j'appelle, je suis un. Je vais donc avoir statistiquement combien de chances de tomber sur le bon numéro? Et si on sort des mathématiques et qu'on vient dans la Torah, ça s'appelle comment faire un faux numéro quand tu appelles Dieu? Ça s'appelle Avodah Zara. Parler à Dieu, si tu ne sais pas à qui tu parles, ça s'appelle Avodah Zara. Mais attendez, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Je suis en train de vous dire que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas prier. Vous connaissez cette phrase? Kshomdim leitpalel, da lifnemi ata omed. Sache devant qui tu te trouves. Tu sais? Non, tu ne sais pas. Quel est le seul qui sait quel est le numéro de Dieu? Eh bien, le seul qui sait quel est le numéro de Dieu, c'est celui que Dieu a appelé. Si Dieu m'a appelé sur mon portable, c'est bon, j'ai son numéro, il s'est affiché, je peux rappeler. En d'autres termes, le seul qui sait à qui répondre, c'est celui à qui on a déjà parlé. Comment ça s'appelle quelqu'un à qui Dieu a parlé? Un prophète. Oui, mesdames et messieurs, un prophète. D'après le judaïsme, seul un prophète a le droit de prier. Ouais. Et vous savez quoi? C'est marqué noir sur blanc dans la halakha. Quand vous prenez la halakha, Shulchan Aruch, Ilchot Tefila, premier séhi, premier siman, on nous dit comme ça, Amit Palel, Tsarir, Sheyechaven, Belibo, nous sommes donc dans le Shulchan Aruch, Achaim, Siman Tzadikret, Seif Aleph. Et là nous dit le Shulchan Aruch, Amit Palel, Tsarir, Sheyechaven, Belibo, Perush, Amilot, Shemotzi, Bisfatav. Ils doivent savoir ce qu'il dit. Bon, c'est pour ça que je dis que nous, on va apprendre qu'est-ce qu'elle veut dire, cette fille-là. Mais ça, on va dire qu'un peu de travail et on peut y arriver sans problème. Et là, on nous dit « Veyachov keilu shrina kenegdo ». Là, ça commence déjà à se compliquer. Je dois penser que la shrina, je ne sais même pas ce que c'est la shrina. Attendez, ça va se compliquer encore plus. Et là, on nous dit « Veyassir kol marchavot atordot oto ». Il doit enlever toutes les mauvaises pensées, tout ce qui le dérange. « Achetisher machavto zakavet filato ». Ça, il doit ne penser qu'à cette fille-là. Bon, disons que c'est dur, mais il y a là. Disons. Et on te dit, s'il avait maintenant rendez-vous avec Trump, eh ben, t'aurais préparé ton discours bien pour pas te planter. Ben là, pareil, a fortiori, tu vas devant le roi des rois, prépare ton discours. Jusque-là, tout va bien. Mais la halakha, Rabbi Yosef Karo, nous dit, chassidim arishonim, Les premiers chassidim, on ne parle pas des chassidim du Baal Shem Tov, évidemment, le chassidim Raour, c'est avant. Chassidim Arishonim se préparaient pendant une heure avant la tefila. Pourquoi ? Atchayou Magim Karov les Maalat Anevoa. Jusqu'à ce qu'ils arrivent proches de la prophétie. Et là, c'est ça qui m'intéresse. Parce que comment je sais, moi, si j'arrive proche d'un endroit B, je suis à un endroit A, je dois arriver à l'endroit B, comment je sais si en chemin je suis proche ou pas ? Eh bien, je ne peux le savoir que si j'ai déjà été une fois dans ma vie, je ne sais pas Waze, hein, si j'ai été une fois dans ma vie à l'endroit B, alors je peux maintenant savoir, en fonction de là où je suis, si je suis proche ou pas. En d'autres termes, pour être proche de la névoie, savoir du moins qu'on est proche de la prophétie, il faut avoir été au moins une fois prophète dans sa vie. Nachon. La halakha nous dit que si tu n'es pas prophète, tu ne peux pas prier. D'ailleurs, je vais vous dire mieux que ça. La première fois que le mot Lehit Palel, prier, apparaît dans la Torah, est collé à la première fois où apparaît le mot Navi, prophète. C'est dans l'histoire où Dieu se dévoile par le rêve à Avimelech qui a pris Sarah à Abraham. Et donc il lui dit, Ve'ata, Hashem eshet ha'ish, rend cette femme à son mari. Ki navi, ou kari prophète, ve'it palel ba'atra. Comme il est prophète, il priera pour toi. C'est parce qu'il est prophète qu'il est. Et je vais vous dire mieux que ça encore. Si vous prenez tout le Tanakh, les seuls dans le Tanakh qui prient, sont les prophètes. Parce que ce sont les seuls, comme on a dit, qui savent à qui s'adresser. Vous auriez pu me dire, Ravetan, eh oh, c'est pas vrai. Moi, j'ai un cas où il y a des gens qui ne sont pas prophètes et qui prient. C'est qui ? Ben, ce sont les marins dans le bateau de Yonah. Alors, pas la première tefila qu'ils font vite fait comme ça à leurs idoles. Non, 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 non. Après, ils prient Bémet, Dieu. Ils ne sont pas prophètes. Nahon. Mais entre-temps, il y a Yonah, le prophète, qui leur a dit qu'ils priaient. Qui leur a donné le numéro. Donc c'est bon, ça marche, ça passe. En d'autres termes, il n'y a que les prophètes qui peuvent prier. Alors comment ça se fait ? Si d'après la halakha, d'après la Mishnah, Shulchan Aruch, Tanakh, seuls les prophètes peuvent prier, c'est tout à fait compréhensible. Parce que celui qui n'est pas prophète, à qui il va prier ? Comment ça se fait que nous, eh bien, on a le droit de prier ? Non seulement le droit, mais le devoir. Eh bien, c'est là que pour comprendre cela, il faut se rattacher aux paroles, je l'ai évoqué hier, de Rabbi Nachman ben Breslav, dans l'Écouter Moharan, cette fois, le tout début du livre, Torah Aleph. Nous dit Rabbi Nachman, « Asheret emim et darecha olchim et Torah Tashem, da, sache, ki al yedei a Torah mitkabelim kol atfilot. » C'est par la Torah que sont acceptées toutes les tfilotes. C'est quoi la Torah ? C'est la base de la névoie. C'est la base de la prophétie. Bon, tout ça, d'accord, j'ai bien compris. Mais moi, alors, moi, je ne peux pas prier, alors. Ben non, je ne peux pas prier. Elle m'a la saute. Merci. Si, si. Vous savez pourquoi je peux prier ? Parce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui s'appelle tfila ? La seule chose qui s'appelle véritablement tfila, c'est la Amida, la Shmoneh Esrei. Or, qui a écrit la Shmoneh Esrei ? Qui nous a donné le texte de la tefila ? Eh bien, le texte de la tefila nous dit la Gemara dans le traité de Megillah, à la page 17, au verso, nous dit la Gemara que ce sont Anshe Knesset Agedola, les hommes de la grande assemblée d'Israël, les 120 Chachamim, qui ont mis en place le corpus, le texte de la Amida. Or, ces 120 Chachamim, eh bien, parmi eux, il y avait également les derniers prophètes. Parmi les 120, il y en avait 83 quand même. 83 derniers prophètes qui, voyant que le wifi de la prophétie allait se tarir, parce que Dieu a décidé de ne plus parler, eh bien, ont mis dans cette Amida, dans cette Shmoneh Esrei, toute leur ambiance prophétique. En d'autres termes, je ne suis pas prophète. Enfin, peut-être vous, oui, mais moi, non. Pas encore. Bezrat Hashem. Aval, je ne suis pas prophète et pourtant, la halakha me dit, tu dois prier. Mais attention. Puisque tu n'es pas prophète, tu ne peux pas dire ce que tu veux. Tu vas utiliser les mots des prophètes. Comme ça, tu seras sûr de ne pas faire un faux numéro. Tu seras sûr de parler à qui il faut parler, même si toi, tu ne sais pas de quoi on parle. En d'autres termes, la tefila, demander à Dieu ce qui me manque, ça doit passer par un contact direct entre lui et moi. Vous allez me dire, ouais, mais d'accord, mais on prie aussi pour des choses qui ne sont pas marquées dans le texte. Et Birkal, tu as cité tout à l'heure Rabbi Nachman Breslav. Rabbi Nachman, il dit qu'il faut aller faire de la hitbo des doutes, qu'il faut aller dans la forêt comme ça et parler à Dieu, Bilshon Ashkenaz, Amur Galbenenu. Oi, tate! C'est pas marqué dans le texte de la Amida, ça, tate. Attendez. Est-ce que Rabbi Nachman vous dit d'aller faire la hitbo des doutes à la place de Tfilat Shmoneh Esrei? Bien sûr que non. À partir du moment où tu as lancé le numéro, le bon numéro, eh bien, dedans, tu peux rajouter tout ce que tu veux. En d'autres termes, tu peux rajouter toutes tes tfilotes personnelles à condition qu'elles soient intégrées à l'intérieur de la Amida. Il y a des moments pour ça. Par exemple, tu peux rajouter tout ce que tu as envie. Avant de Baruch Hashem, refaire Cholam Israël pour toutes les malades d'Israël, Corona et autres. Et avant chaque bracha ve bracha, tu peux penser à ce qui te manque à ce niveau-là. Prenez la date, tu veux un peu plus de chokma, tu veux plus de parnassa, et ainsi de suite. En d'autres termes, j'inscris mes demandes personnelles dans une demande générale. Et cette demande générale, elle est directement liée à la prophétie. Voilà. Qui est la base de la tfila, on l'a dit. Combien y a de brachot dedans? On l'appelle la Shmoneh Esrei, la 18. C'est pour ça qu'en vrai, il y en a... Ouais, 19, t'as raison. Pourquoi 19? Parce que beaucoup plus tard, a été rajouté une autre bracha. Birkat Aminim. Birkat Aminim? Mais attendez, comment on a pu rajouter une autre bracha? On a dit que ceux qui ont fait la Shmoneh Esrei, c'était les derniers prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Comment faire? Nous sommes au deuxième siècle de l'ère chrétienne. En l'an, allez, au jugé 120. Nous avons un grand problème. 120-130. Nous avons des problèmes grandissants avec les Romains. Nous sommes au pas de la guerre de Bar Corva. À ce moment-là, il y a une partie du peuple juif qui a décidé de se scinder du reste du peuple, non seulement par sa croyance, mais également par le fait qu'ils vont prêter main forte aux Romains. Ils vont devenir des délateurs. Ils ne prennent pas les armes, car ils sont genre pacifistes, mais ils vont simplement nous dénoncer aux Romains et dire où se trouvent les cachettes des Juifs. Ces gens-là, on va les appeler minimes. Birkata minim. La bracha pour les exclure du peuple juif. De qui parlons-nous? Alors, lorsqu'on va regarder un sidour de notre génération, on va dire la minim, la malchinim, alteitikva. On ne sait pas vraiment de qui on parle. C'est dû à la censure qui a été la nôtre pendant près de 1000 ans. Mais quand on retrouve, et on l'a retrouvé, le sidour de Rabbeinu Saadia Gaon. Dans son sidour, il y a marqué clairement, il n'y a pas moyen de se tromper. Il y a marqué la minim, la notsrim, la meshumadim, alteitikva. On parle des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens qui ont décidé de prêter main forte aux Romains. À ce moment-là, on a décidé de les sortir du peuple juif. Bon, d'accord, mais c'est bien gentil, cette histoire historique. Mais on a parlé de Névoa. Donc, qui va décréter Birkat Aminim pour qu'elle puisse rentrer dans la Shmoneh Esrei Tsha Esrei? Eh bien, Rabban Gamliel, c'est marqué encore une fois au Talmud, dans le traité de Brachot, à la page 28, au verso, nous dit Rabban Gamliel, « Ma, je comprends pas, Kloum !» Yesh bachem mishu sheyachol letaken et birkat aminim? N'y a-t-il personne? N'y a-t-il personne qui est capable de letaken et birkat aminim? Amat Shmuel Akatan vetikna. Le chacham qui a mis en place birkat aminim s'appelle Shmuel Akatan. C'est pas un nom, ça, Shmuel Akatan. N'y a qui réunit quelque chose comme ça, quelque part de la prophétie. Et donc, il a pu mettre en place cette bracha. Il a fait tuyau. Ah, la ligne directe, Camille, de qui on parle. Donc maintenant, on peut y aller, on peut prier. On a plein de demandes.